Véronique Holmy, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez donc Bakita chez Albin Michel. Je dois dire que c'est vraiment l'un de mes grands bonheurs de lecture. Racontez-nous, dites-nous comment, parce que moi je l'ai découverte complètement, cette sainte et autrefois esclave. Vous, comment l'avez-vous découverte? Comment l'avez-vous rencontrée, Bakita?
Alors en fait, moi j'ai une maison en Touraine et donc je faisais mon marché à Langeais et je suis rentrée dans l'église pour la visiter tout naturellement. Et comme elle est la patronne de cette petite chapelle, de cette petite église, il y avait son portrait avec 4-5 dates biographiques. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, je ne peux pas vous dire, ça m'a bouleversée, mais profondément. Je travaillais sur un autre roman que j'ai totalement abandonné. Et rentrée à la maison, j'ai très vulgairement googlisé Bakita, en me disant, il doit y avoir des tas de livres qui m'ont échappé, c'est pas possible. Et il y avait uniquement le livre en italien, La Storia Meravigliosa, dont il y a eu des éditions depuis ses récits en 31 jusqu'à sa canonisation en 2000.
Qu'est-ce qui plus particulièrement, suscite immédiatement votre intérêt et a fortiori votre intérêt de romancière?
En fait, il y a un parcours de femme incroyable, puisqu'il y a une petite fille qui naît au Darfour, une vieille femme meurt en Italie. Entre les deux, elle a été esclave, elle a été nourrice, elle est devenue religieuse, elle a traversé les deux guerres mondiales, l'avènement de Mussolini et le point, c'est étrange, mais moi je suis très attachée aux détails. Ce qui m'a bouleversée dans ce parcours hors norme, c'est qu'elle avait oublié son nom. Voilà. Ce détail-là m'a bouleversée. Alors sur le moment, je ne pouvais pas l'analyser, hein. J'étais au-delà de l'analyse, j'étais vraiment dans la subjugation. Et en travaillant au Bakita pendant toutes ces années, je me suis dit c'est incroyable parce qu'en fait, on est tous bâtis sur l'enfance et ce récit de l'enfance que nos parents nous ont fait, que ce soit les témoins, que ce soit les photos, que ce soit les lieux, on est pétri de souvenirs qui nous appartiennent plus ou moins. Et elle n'avait rien de tout ça. Et elle a eu tellement peur quand on l'a kidnappée, cette petite fille à 7 ans, qu'elle a oublié son prénom. Alors Bakita, c'est son nom musulman, son nom d'esclave.
Donné par ses maîtres.
Parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord pour qu'elle ait un nom musulman, pour qu'elle devienne une vraie musulmane, et ensuite pour que les esclaves ne se retrouvent pas les uns les autres, parce qu'ils passaient leur temps à se chercher qui sa mère, qui sa sœur, qui voilà. Et donc il y a beaucoup de Bakita.
Sur les années d'esclavage, il faut le dire, c'est un récit éprouvant. Les pratiques de ces esclavagistes sont absolument abominables, épouvantables. Est-ce que à certains moments, vous avez hésité à raconter certaines choses?
J'ai pas hésité dans le choix des scènes, j'ai hésité dans le choix des mots, ce qui est mon métier. Bakita, c'est un roman que j'ai recommencé 4 fois. Parce que ce qui était compliqué, c'est comment raconter cette histoire, c'est-à-dire être à la bonne distance. Qui parle? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est au passé? Est-ce que c'est au présent? Et j'ai vraiment. C'était ça le plus difficile. Et puis, le choix des mots, par exemple, quand elle est prise par le petit maître à qui elle est promise pour les nuits avant son mariage, il y a cette scène de violence, il y a des mots que je me refusais d'employer. Pourquoi? Parce qu'elle-même, quand elle a fait les récits avec elle parlait difficilement parce qu'elle était pleine de langues, de dialectes différents, et donc elle s'exprimait, c'était difficile pour elle. Mais en tout cas, il y a des choses dont elle n'a jamais parlé. Et il y a des mots violents que je n'aurais pas rajoutés à ces offenses parce que c'est par respect pour elle. Alors je décris, mais il y a une pudeur à avoir dans l'inhumanité de ce qu'elle a subi.
Il y a donc une résilience, une reconstruction de Bakita qui passe notamment à un moment lorsque elle rencontre ce consul italien. C'est ce moment de la redécouverte du corps. Elle redécouvre qu'elle a un corps, son corps.
Elle le
C'est un
redécouvre
moment
parce
clé.
oui, ça c'est un moment que j'aime particulièrement parce que elle redécouvre qu'elle a un corps parce qu'elle le cache aux autres. Elle qui a été exposée dans les marchés, qui a été malmenée, qui a subi la torture du tatouage, tout d'un coup, ce maître-là lui fait donner un bain et elle est habillée, elle est revêtue. Et ça, c'est comme si il la rendait à elle-même et c'est une première étape vers la résilience, vers la dignité.
Et avant de retrouver par la suite aussi un nom, une identité, évidemment, ce qui est très très important.
Oui, c'est vrai que Bakita, c'est un nom d'esclave très répandu. et qu'ensuite elle s'appelle Madre. Madre Moretta, la Noiraude, ou Madre Giuseppina, mais Madre, c'est la mère. Et c'est pas un hasard si, même si en Italie c'était très répandu dans les ordres des religieuses, si elle va vers un ordre qui s'occupe des enfants perdus, des petites filles perdues, des orphelines, des petites filles misérables, des filles de paysans qui vont à l'école de temps en temps. Je crois qu'elle avait besoin de rendre quelque chose parce qu'elle avait quand même la culpabilité des survivants très fort. Il y avait tous ces êtres qu'elle avait aimés, qu'elle n'avait pas pu sauver, qu'elle a laissés au Soudan. Et cet ordre canossienne lui a permis à la fois d'aider les plus pauvres et ensuite de s'autoriser à être aimé.
Finalement, à part ce récit que vous avez mentionné, une histoire merveilleuse, les sources documentaires sur sa vie sont très très rares. Comment justement on comble ces vides quand on essaie de raconter Bakita ?
C'était pas des vides, parce que comme je suis pas historienne et que je suis pas biographe, moi dans la Storia Meravigliosa, ce que j'ai pris c'est toutes les dates, les lieux, les noms des maîtres, et puis après, moi, quand je dis que c'est une rencontre, c'est vrai que c'est un roman subjectif. C'est le retentissement de Bakita en moi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup plus pensé à elle en m'asseyant dans le cloître à Venise sans parler que je ne suis pas allée, par exemple, faire des recherches pour son certificat de baptême dans la bibliothèque du Vatican. Ça ne m'intéressait pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était de m'imprégner sensuellement des mots, parce que les mots ont une sensualité, des lieux, et j'ai laissé, je pourrais dire, Bakita naviguer en moi avec cette conscience qu'elle est tellement complexe qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui me dépassait.
Qu'est-ce que son destin nous dit aujourd'hui ?
Son destin nous dit que rien, hélas, ne change, parce que son destin nous dit que le chaos du monde est partout le même, que l'exploitation de l'homme par l'homme est partout la même, et que là-dedans se faufilent des justes, et qu'il y a des interstices de lumière, c'est pas un terme religieux, hein, et que la vie, Bakita, moi, m'a appris une chose, c'est que la vie est un cadeau. Elle s'est tellement battue pour la sienne, ça veut dire qu'elle la respectait, et que donc moi, je crois qu'il faut essayer d'avoir un peu plus de gratitude pour tous les privilèges qu'on a, parce qu'aujourd'hui, il y a Raqqa, parce qu'aujourd'hui, il y a encore l'esclavage, et que c'est une résistance, cette femme-là. C'est une grande leçon de vie.
L'esclavage, ces filières que vous décrivez en Afrique, existent toujours, et ça, on l'oublie trop souvent.
L'esclavage existe encore au Soudan, l'esclavage existe encore en Côte d'Ivoire, où pour les plantations de cacao, on enlève les enfants dans d'autres pays africains, le Mali, le Togo, le Libéria et d'autres, que l'esclavage existe en Inde et que l'esclavage existe en Europe et existe à Paris. Voilà, il y a 21 millions d'esclaves aujourd'hui dans le monde et on croit à tort que l'esclavage, par exemple en France, est le fait des milieux diplomatiques. Or, c'est faux, c'est dans tous les milieux.
Qui est Bakita aujourd'hui en France, par exemple, ou à Paris ?
Une petite fille cachée, voilà. C'est vrai que les personnes qui viennent, qui sont esclavagisées en France, on commence par leur retirer leurs papiers, mais plus grave que ça, on leur retire le sommeil, on leur retire la nourriture, l'eau, on les fait travailler, et là, on divague, on se perd soi-même. Donc à partir de là, il y a ces personnes-là sont dénoncées par, ça peut être une maîtresse d'école qui voit quelqu'un accompagner les enfants, ou une assistante sociale qui vient dans la famille, ou parfois un policier qui fait traverser les enfants qui vont à l'école. Voilà, c'est des témoignages extérieurs qui font que il y a un mouvement qui est créé, qui lutte contre l'esclavage moderne. Ils arrivent petit à petit à sauver quelques êtres, mais il y en a beaucoup.
S'il fallait, l'exercice difficile, mais attribuer un mot, un qualificatif pour Bakita.
On a droit à deux ?
Oui, allez, soyons généreux.
La force et la lumière, comme ça vous pouvez choisir celui que vous voulez.
Ou on garde les deux. Alors moi je dois dire que vraiment vous m'avez bluffé, Véronique Olmier, parce qu'on vous connaît depuis un certain temps, comme la romancière des tourments amoureux, enfin des drames familiaux, du couple, de l'intime. Et là, pour la première fois, vous embrassez la grande histoire. Il y a la trajectoire de cette femme Bakita, mais il y a aussi une espèce de fresque donc historique sur l'esclavage tel qu'il était pratiqué. au 19e et encore au début du 20e siècle, et puis même aujourd'hui, vous l'avez évoqué il y a un instant. Donc un roman de grande ampleur, je me dis, c'est une sacrée remise en question pour un auteur, voire une prise de risque. C'est la personnalité de Bakita qui vous a
poussé.
Ah mais
oui, c'est elle, hein, c'est elle. Et c'est drôle, parce que moi, une fois que j'ai eu fini le livre, je me suis dit... Ah, mais en fait, j'ai écrit toute une vie. Et j'avais toujours, je crois que tous les écrivains ont le livre idéal à écrire. Et je m'étais toujours dit, j'aimerais un jour arriver à écrire toute la vie d'une femme. Mais je voyais une mère, une grand-mère, la descendance. Et tout d'un coup, je me dis, ah, mais j'ai écrit le parcours d'une vie. En fait, Bakita, ça m'a tellement... J'ai tellement vécu avec elle que je ne suis même pas posée de questions. Mais ce métier est merveilleux parce qu'effectivement, eh ben, on apprend sur l'esclavage au Soudan, sur l'avènement de Mussolini ou l'histoire de l'Italie, que moi, je connaissais très peu cette histoire. La guerre de 14, je m'y étais déjà intéressée. Donc, je savais comme c'est agréable de faire de la documentation, de rencontrer des témoins, de s'ouvrir, d'aller vers découvrir d'autres mondes. C'est un métier merveilleux.
Les prix littéraires, est-ce qu'on y pense forcément? Est-ce qu'on se prend
au jeu?
Alors,
pas quand on l'écrit, parce que
on
sait pas.
Non, mais je parle là de l'instant présent.
Quand on y pense, ne soyons pas hypocrites, on est là pour ça. Si on veut pas de prix, on sort pas à la rentrée, parce que on est nombreux. Il y a une émulsion, mais il y a aussi une violence. C'est une exception culturelle française formidable. Tout le monde, il n'y a pas que les auteurs, il y a tout le monde dans les maisons d'édition, les journalistes, les responsables de festivals. Tout le monde est mobilisé sur ce moment-là, ce que je trouve à la fois violent et merveilleux. Et vous dire que je ne pense pas au prix, alors autant sortir au mois de novembre. Bien sûr, j'y pense.
Bon, ben, je vous remercie, je vous félicite pour votre sincérité, Mélanie Colmy. Et j'espère qu'elle sera payée de retour.
Ça, c'est pas très grave, mais je ne veux pas être hypocrite.
Bakita, publié chez Albin Michel, donc l'un de nos grands coups de cœur de cette rentrée 2017. Merci.
Merci.